Je vous souhaite à tous une bonne année 2008. J'espère que tout va aller pour le mieux et que nous verrons enfin l'arrivée de cette aube tellement désirée où la doctrine de l'Église sera un peu mieux reconnue. Je vais donc vous parler de la famille. La famille est une question très importante et bien déformée de nos jours. Ne parle-t-on pas de famille recomposée, de couples homosexuels, de familles monoparentales ou autres gnangnantises? D'ailleurs, la famille n'est plus au premier rang des préoccupations ministérielles. Il n'est donc pas inutile de réfléchir un petit peu sur ce sujet en tant que chrétien. Dans son encyclique de 1980, Familiaris Consortio, Jean-Paul II affirmait « En créant l'humanité de l'homme et de la femme à son image, en la conservant mutuellement, continuellement dans l'être, Dieu a inscrit en elle la vocation et donc la capacité et la responsabilité correspondantes à l'amour et à la communion. Puisque l'homme est un esprit incarné, c'est-à-dire une âme qui s'exprime dans un corps et un corps animé par un esprit immortel, l'homme est appelé à l'amour dans sa totalité unifiée. L'amour embrasse aussi le corps humain et le corps est rendu participant de l'amour spirituel. En conséquence, la sexualité par laquelle l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre par les actes propres et exclusifs des époux n'est pas quelque chose de purement biologique, mais concerne la personne humaine dans ce qu'elle a de plus intime. Elle ne se réalise de façon véritablement humaine que si elle est partie intégrante de l'amour dans lequel l'homme et la femme s'engagent entièrement l'un vis-à-vis de l'autre jusqu'à la mort. » Voilà qui est très clair, c'est un pape qui l'a dit, il faudrait être un petit peu présomptueux pour effacer tout ça d'un revers de main. Donc, comme le dit le pape, l'humanité de l'homme et de la femme est créée à l'image de Dieu. Pourtant, il ne s'agit pas de purs esprits comme les anges et Dieu lui-même. Certains se sont posé la question du pourquoi de ce mélange d'esprits et de matière. La réponse semble bien être la suivante. Les anges, purs esprits et pures intelligences, sont très semblables à Dieu, mais il leur manque une qualité essentielle, la fécondité. Chaque ange reste seul de son espèce. Seul Dieu est fécond, comme pur esprit. Pour donner à un esprit la possibilité d'engendrer un semblable, il a fallu le lier à de la matière qui, elle, pourrait-on dire, est infiniment divisible, et ce fut l'homme. L'homme se trouve donc inférieur aux anges puisque immergé dans une matière avec des contraintes parfois pesantes, mais il est fécond. Accessoirement, on peut croire que cette possibilité attise une jalousie féroce de la part de Satan et de ses anges, et on comprend mieux la hargne avec laquelle il lutte contre la famille, qui est en quelque sorte le sanctuaire de cette fécondité, hargne contre la famille et en particulier contre la femme qui en est l'agent. Tout est bon pour avilir la femme dans cette qualité merveilleuse. La prostitution autrefois, la contraception et l'avortement et l'homosexualité aujourd'hui. L'homme n'est ni ange ni bête, a dit Pascal, qui ajoutait que celui qui voulait faire l'ange faisait la bête. Il aurait pu continuer, à l'adresse de notre époque, en se sifflant que celui qui fait la bête ne fait pas l'ange pour autant. Donc, l'homme et la femme sont créés avec cette disposition, cette vocation à la fécondité. Il en résulte l'essentiel de la doctrine sociale de l'Église, ce qui prouve en passant que la dite doctrine est bien dans la ligne d'une soumission respectueuse et aimante à la volonté de notre Créateur et Sauveur, et non le fruit d'un orgueil d'autant plus stupide qu'il est démesuré. Reprenons l'ordre de l'encyclique précédente. L'amour embrasse aussi le corps animé par un esprit immortel, et le corps est rendu participant de l'amour spirituel. En conséquence, la sexualité par laquelle l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre concerne la personne humaine dans ce cas-là de plus intime. En quelque sorte, il y a dans l'union de l'homme et de la femme une dimension sacrée. Je dis bien une dimension, non la totalité. Cette dimension est d'autant plus évidente que le résultat normal en est la conception d'un enfant, lui-même à l'image de Dieu. Il est évident que ce ne sont pas les parents qui engendrent une âme à l'image de Dieu. C'est Dieu qui insuffle une âme dans tout corps engendré par un couple humain. C'est là une alliance fondamentale que le péché originel n'a pas rompue. Ce respect du Créateur pour une activité humaine fondamentale est une raison supplémentaire de considérer cette union comme infiniment respectable. Ce n'est pas parce qu'elle a un aspect fort agréable qu'elle l'est moins. Et en tant que respectable, cette union doit être respectée. On pourrait résumer ainsi cette idée. On ne fait pas joujou avec les choses sacrées. Une des premières conséquences de ce caractère, je cite Familiaris Consortio, est que cette donation physique totale serait un mensonge si elle n'était le signe d'une donation personnelle totale qui dépasse de loin une inclinaison purement érotique, qui, cultivée pour elle-même, s'évanouit vite et d'une façon pitoyable. On a vite fait de se lasser quelque chose. La Fontaine l'a dit d'une manière très pittoresque dans ce brave paysan qui voulait du pâté d'anguille, et au bout de deux mois, il demandait « mais vous n'auriez pas autre chose ?» Cela ne fait que justifier l'indissolubilité du mariage chrétien, je dirais même catholique, car les protestants, c'est à confirmer je crois aussi les orthodoxes, admettent le divorce dans certains cas. Cette rigidité catholique est la conséquence directe de la parole de notre Seigneur dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 10. Elle va au-delà des concessions jadis consenties en raison de la dureté de notre cœur. Et notre Seigneur disait que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Une deuxième conséquence concerne l'éducation des enfants. Le temps pendant lequel les rejetons doivent être protégés par leurs géniteurs varie suivant les espèces. Il est nul chez les invertébrés et chez les vertébrés inférieurs, hormis certains cas où les larves sont nourries par la communauté, comme c'est le cas des abeilles. Il n'est que de quelques semaines chez les oiseaux, de 2 ans au plus chez les ours et les singes. Pour le petit homme, il faut au moins une douzaine d'années, pour ne pas dire 15 ou 20. Il est indispensable que pendant ce laps de temps, l'enfant soit non seulement protégé et nourri, mais aussi éduqué sur le plan intellectuel et moral. Dans l'espèce humaine, les deux sexes ne sont pas seulement complémentaires physiologiquement, mais aussi moralement, ce qui ne peut être réalisé sous sa forme parfaite que par l'union indissoluble d'un homme et d'une femme, ou l'union au moins durable, bien sûr. Certes, cela est loin d'avoir toujours existé sous cette forme parfaite, mais le but n'en est pas moins clair. Contrairement à la tendance actuelle, qui est d'arracher au plus tôt les enfants de leur foyer afin de leur donner une éducation citoyenne, comme on dit, le Concile Vatican II, dans son texte Gravissimum Educationem Monumentum, a noté les choses suivantes. Excusez-moi, il faut que je retrouve le machin. Les parents, parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever et à ce titre doivent être reconnus comme les premiers et principaux éducateurs. On est loin des fantaisies actuelles. Le rôle éducatif des parents est d'une telle importance qu'en cas de défaillance de leur part, il peut difficilement être suppléé. Il faut reconnaître toutefois que la famille ne peut assurer la plénitude de la tâche éducative. On dit qu'elle est une société imparfaite, car elle n'a pas en elle-même tous les moyens nécessaires pour atteindre sa perfection propre. Elle doit donc faire appel à des sociétés parfaites dans leur ordre, comme l'Église et l'État, qui ont le devoir de créer et de promouvoir les institutions et les activités que les familles attendent, à juste titre. C'est Familiaris Consortio. Étant bien entendu que, comme l'a dit Jean-Paul II, les parents ont le droit de choisir librement les écoles ou autres moyens nécessaires pour éduquer leurs enfants suivant leurs convictions. À cette fin, de la fin de cette même encyclique se trouvent ces mots. Ce sont les familles qui, en premier lieu, doivent faire en sorte que les lois et institutions de l'État non seulement s'abstiennent de blesser les droits et devoirs de la famille, mais encore les soutiennent et les protègent positivement. Disons par euphémisme que c'est loin d'être toujours le cas actuellement. Surtout si on joint la télévision et les divers spectacles accessibles par ordinateur à l'ensemble de l'éducation. Certaines questions ont été largement débattues, et le sont encore, bien que l'Église ait parlé clairement. Je ne répéterai pas que tout ce qui a été dit et se dit encore dans la légitime régulation des naissances, mais contre la contraception, l'homosexualité, le crime d'avortement et les manipulations génétiques, tout cela est une conséquence directe de la filiation envers Dieu qui nous habite et qui, selon certains, fait que, au moins pour les meilleurs de nous-mêmes, nous ressemblons davantage à Dieu qu'à nos parents. Nous continuerons la famille la prochaine fois.